Alors, je vais être de toute manière dans l'obligation de respecter les 20 minutes. Un, parce que c'est un principe personnel de toujours respecter le temps qu'on m'accorde. Deux, parce que j'ai une contrainte à 12h15. Comme vous savez, je suis à distance, que j'ai des contraintes professionnelles aujourd'hui. Et donc, je devrais vous quitter à 12h15, quoi qu'il se passe. Donc, je vais essayer d'être rapide, claire, sans perdre trop de temps. Marie, par contre, si vous me parlez, je ne vous entends pas. Donc, je suis désolée. Si tout va bien, c'est parfait. Donc oui, pour revenir sur le sujet d'industrie et de réindustrialisation, c'est un thème dont on entend beaucoup parler ces derniers mois, enfin en tout cas depuis mars 2020, de manière très claire, avec la crise de la Covid-19 et la crise sanitaire et la crise économique qui s'en est suivie. Tout le monde s'est remis à parler d'industrie, c'est-à-dire que ce sujet qui était un sujet plutôt disqualifié, déconsidéré, plutôt comme un sujet non intéressant dans une société dite post-industrielle, est redevenu sur le devant de la scène, à tel point que eh bien, de nombreux aspirants pour l'élection présidentielle de 2022 se mettent à mettre l'industrie comme un thème central de leur programme présidentiel. Donc, les choses changent pour les gens qui travaillent sur l'industrie, à la fois les industriels, à la fois les universitaires et à la fois toutes les personnes qui travaillent dans l'écosystème industriel. C'est une bonne nouvelle qu'on se remette à parler de ce sujet. Mais malheureusement, c'est un sujet qui reste très complexe, qu'on tend souvent à réduire. C'est-à-dire, quand on parle d'industrie, on a l'image de l'usine. Et en fait, l'industrie, c'est quelque chose de beaucoup plus large. L'usine, elle est connectée dans un écosystème. Elle ne peut pas fonctionner seule. Elle a à la fois ses sous-traitants, ses clients, ses prestataires, mais il y a aussi tout un réseau de flux. Donc la logistique fait partie de l'industrie quand on raisonne réindustrialisation, comme les infrastructures, comme les politiques d'innovation. Et donc on a tendance à réduire ce débat, alors qu'il est extrêmement complexe et que si on ne comprend pas toutes les interactions et tous les leviers et tous les besoins qu'on a pour réindustrialiser la France, alors on ne risque pas d'aboutir au but qu'on cherche à atteindre. Et c'est la deuxième chose sur laquelle je veux venir, c'est que les buts qu'on veut atteindre en parlant de réindustrialisation ne sont pas forcément très bien définis. Et donc, c'est difficile de mettre en œuvre les bons moyens quand vous n'avez pas défini les bons buts, vos bons objectifs. J'ai tendance à dire que l'industrie, elle est partie prenante d'un projet de société et qu'en fonction du projet de société que l'on veut définir, que l'on veut porter, alors on a des ambitions industrielles qui ne vont pas être les mêmes selon ce projet de société. Par ailleurs, pour réindustrialiser, il y a différents objectifs qu'on peut poursuivre. Pour moi, l'objectif numéro un de l'intérêt d'avoir une industrie forte en France, c'est de la créer de la valeur sur notre territoire. Parce que c'est en créant de la valeur qu'on va pouvoir continuer à financer notre modèle de société, qu'on va pouvoir le faire évoluer. Mais si nous ne créons plus de richesse et de valeur sur notre territoire, alors nous ne pourrons pas, par la suite, continuer à financer ce modèle. La deuxième chose, c'est la création d'emplois, d'emplois directs dans l'industrie. Alors on sait d'ores et déjà que quand on parle de relocalisation, on ne recréera jamais autant d'emplois qu'on a détruits avec la désindustrialisation. Parce qu'en parallèle de la désindustrialisation, il y a aussi des phénomènes de gains de productivité, etc., qui font que l'emploi a évolué, la structure de l'emploi a évolué. Par ailleurs, la nature des emplois ne sera pas la même, puisqu'on va aller sur des unités souvent peut-être plus automatisées, avec des compétences différentes. Et donc, on va avoir plus de populations de techniciens, de cadres, avec des compétences différentes, notamment des compétences en informatique, ce qu'on n'avait pas de manière aussi poussée dans les usines qui sont parties, entre guillemets. La deuxième chose, c'est que l'industrie est le seul secteur qui a une capacité d'entraînement en termes de création d'emplois. On dit en général un emploi direct dans l'industrie génère 3 à 4 emplois indirects. Les emplois indirects, ça va être les emplois dans la logistique, dans la maintenance, dans les services à l'industrie, mais c'est aussi tout l'écosystème qu'on va recréer autour d'une usine. Quand vous avez une usine, en général, vous avez aussi une augmentation des besoins en services publics, des besoins en école, des besoins en commerce. Et donc, autour des usines, et d'ailleurs c'est bien un des problèmes avec la désindustrialisation, c'est qu'on a beaucoup de petites et moyennes villes qui étaient dépendantes d'une industrie, et quand l'usine allait mal, alors c'est tout le territoire qui rentrait en crise. Troisième objectif de la réindustrialisation, c'est la question de la souveraineté. C'est-à-dire qu'en se désindustrialisant, on a considéré que la valeur et notre force n'étaient pas dans le fait de faire, mais bien dans le fait de penser, de designer les produits, puis de les vendre. Et donc, on a confié ce faire à des pays tiers qui, petit à petit, eux aussi, sont remontés dans la chaîne de valeur. Et aujourd'hui, eh bien, viennent nous attaquer sur des domaines où on se pensait inattaquable. Et on se rend bien compte que dans un contexte géopolitique de plus en plus complexe, avec des rivalités entre les États très fortes, eh bien, si nous ne sommes pas capables de maîtriser les chaînes de valeur sur les actifs que nous jugeons stratégiques, alors, je vais m'excuser pour le bruit, alors on a une souveraineté qui se réduit de plus en plus. Et la dernière chose, quand on parle de réindustrialiser, c'est la question environnementale. On voit bien qu'il y a une urgence à transformer nos modèles, à reproduire plus localement ce que nous consommons pour essayer de répondre à cette urgence environnementale. Par contre, je crois qu'il faut être assez clair là-dessus. Ce n'est pas parce qu'on produit à proximité qu'on va apporter forcément les bonnes réponses sur le plan environnemental. Vous pouvez garder les mêmes conditions de production à proximité de votre lieu de consommation. Vous allez juste réduire l'impact environnemental sur le transport, ce qui est déjà un élément important, mais ça ne veut pas dire que vous allez radicalement changer le modèle. Et je crois que là, il est important de dire qu'il faut aller beaucoup plus loin dans cette logique de réindustrialisation. Je crois qu'il y a peut-être d'autres intervenants qui reviendront dessus aujourd'hui ou demain. C'est à la fois la conception du produit, concevoir un produit avec des matières durables. Aujourd'hui, et on oublie de le dire, quand on parle de la dépendance aux énergies fossiles, on pense énergie, on vient de le dire. On oublie de dire qu'on a énormément de matières dans les produits du quotidien qui sont des dérivés du pétrole. Et si on veut sortir du pétrole, par exemple, à l'horizon 2035, comme le disent certains, ou 2050, alors on doit aussi repenser les matières qu'on utilise. Et ça, c'est un travail très profond qui va demander des investissements assez conséquents. On a aussi un travail à faire sur la durée de vie du produit, c'est-à-dire avoir un produit qui soit à la fois recyclable, mais qui soit aussi réparable. C'est-à-dire, on arrête avec les produits qu'on achète et peu importe, on les achète pas cher et peu importe s'ils durent pas longtemps, c'est pas grave, on les a pas achetés cher. Maintenant, il va falloir accepter de payer un peu plus cher, mais pouvoir avoir une durée de vie beaucoup plus longue parce que c'est le seul moyen d'atteindre nos objectifs environnementaux. Sans parler du fait qu'il faut aussi revoir la manière dont on consomme et sortir de ce phénomène de surconsommation. La dernière chose, c'est qu'il faut penser, gérer le produit sur tout son cycle de vie et penser, quand on l'a conçu, à comment on va assurer sa fin de vie. Aujourd'hui, on a trop de produits qui ne sont pas recyclables, on a des coûts de recyclage qui sont encore importants, ce qui fait qu'on préfère souvent une matière neuve à une matière recyclée ou qu'on ne recycle pas du tout. Et ça, ce n'est plus acceptable, d'autant plus qu'un certain nombre de pays sont en train de fermer leurs frontières à nos déchets. Et donc, on va devoir trouver nous-mêmes des solutions. Et ça va commencer par repenser le produit qu'on fait et son cycle de vie et son recyclage. L'autre chose, c'est que les entreprises vont pouvoir inventer aussi de nouveaux modèles économiques à travers ces questions environnementales, notamment à travers la question du recyclage, avec des boucles de récupération des produits en fin de vie pour qu'elles puissent à nouveau les réutiliser, soit ces entreprises, soit d'autres entreprises. Mais en tout cas, il y a de la valeur à aller chercher dans ces schémas de recyclage. Et dans d'autres modèles économiques à inventer, comme les services associés, c'est-à-dire sortir uniquement de la logique vendre un produit, mais vendre un service, vendre un usage. Et tout ça va potentiellement bouleverser aussi nos principes de base dans l'industrie, puisqu'un des principes qui est souvent évoqué, c'est massifier la production pour abaisser les coûts de production. Et on se rend compte qu'à partir du moment où on sort de la logique de consommation de masse, eh bien, ça va poser des questions sur ces volumes. Et donc, il va bien falloir repenser la manière dont on crée la valeur à l'échelle de l'entreprise. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que très souvent, on a tendance à limiter dans le débat la désindustrialisation à une histoire de facteurs macroéconomiques tels que le coût du travail. Il est vrai, des aspects macroéconomiques qui peuvent expliquer la désindustrialisation. Mais on oublie aussi de voir tout ce qui était lié à la compétitivité hors coût, qui ont fait que petit à petit, la France a perdu des avantages. Ah, la France, alors, on a des industriels qui brillent sans problème, d'ailleurs qui ne sont pas forcément les plus connus du grand public, mais globalement, l'érosion de l'industrie, elle est aussi due à une perte d'avantages comparatifs par rapport à nos voisins européens, à commencer par l'Italie et l'Allemagne, une faible capacité à se différencier, un positionnement en termes de produits qui finalement ne permettait pas d'aller trouver des leviers de croissance sur des marchés étrangers. Et donc, tout l'enjeu de la réindustrialisation, de la relocalisation, c'est de faire évoluer le cadre qui a abouti à cette désindustrialisation. On ne peut pas penser qu'on va se réindustrialiser sans changer ce qui a causé le déclin de l'industrie. Il y a à la fois des discours publics, des accompagnements publics, des choix des stratégies d'entreprise, mais il y a besoin de repenser ce cadre en profondeur. Et une des choses qui est importante dans repenser le cadre, c'est aussi réfléchir au positionnement qu'on veut avoir. Aujourd'hui, on parle beaucoup, par exemple, des batteries électriques ou des semi-conducteurs. Alors, il y a des industriels français qui sont en train de se positionner sur les batteries électriques. On a, selon la segmentation de produits, on a déjà des gens qui sont très forts dans leur secteur, mais dans les batteries électriques telles que les voitures, par exemple, aujourd'hui, ce n'est pas forcément un point de force des industriels français. Donc là, on va créer de l'emploi, mais on ne va pas résoudre notre problème de souveraineté. De la même manière que dans les semi-conducteurs, je trouve que c'est un très bon exemple pour cette approche en chaîne de valeur. Aujourd'hui, on a des industriels qui font des semi-conducteurs en Europe, notamment ST Microelectronics, qui sont plutôt à destination des marchés dominants en Europe, à savoir l'automobile. Principalement, on produit beaucoup plus d'automobiles que d'électronique en Europe. On a des acteurs industriels européens qui maîtrisent certains points dans la chaîne de valeur du semi-conducteur. Alors, on pense à ARM, le britannique, qui fait les bases des semi-conducteurs. Certes, on dirait que le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne, mais ça reste un voisin proche qui maîtrise une technologie qui abreuve le monde entier, en tout cas la majorité des grandes fonderies de semi-conducteurs. Et quand on regarde la stratégie européenne en matière de semi-conducteurs, on est plutôt dans l'idée de faire venir des groupes étrangers pour implanter des usines. Ce qui ne nous donnera pas la maîtrise technologique, parce que ce n'est pas parce qu'on a un outil productif sur notre territoire qu'on va investir dans les futures générations de semi-conducteurs. Et donc, une stratégie qui, moi, me semblerait plus pertinente pour atteindre les buts qu'on poursuit, à savoir souveraineté, création d'emplois, indépendance technologique, serait de réfléchir à partir des industriels et des compétences qu'on a sur nos territoires. Et d'investir pour rattraper le retard technologique dans ces industries, et de remonter la chaîne de valeur à partir de compétences clés que nous allons avoir, soit en amont, soit en aval, de manière à être des deal breakers, on va dire, je suis désolée pour le mot anglais, par rapport à nos concurrents étrangers. Et pas seulement faire revenir des usines. Il faut vraiment avoir une logique de réflexion sur la souveraineté et la maîtrise technologique. Tant que nous ne maîtriserons pas les technologies, nous ne serons pas souverains. C'est une illusion de le croire. Surtout que nous avons parfois face à nous des pays qui sont extrêmement, sauvages, n'est pas le bon mot, mais qui sont très durs en matière de propriété intellectuelle, qui n'hésitent pas à contourner ou même violer certaines règles de la propriété intellectuelle. Et donc, il est illusoire de penser que juste implanter des usines nous permettra de réduire ce défi. Par ailleurs, la réindustrialisation, ça va être quelque chose de très complexe en termes de compétences. Après 40 ans de désindustrialisation, on a perdu un certain nombre de compétences historiques pour lesquelles on ne forme plus ou peu. On a besoin d'avoir des formations qui vont être plus adaptées. Et d'ailleurs, beaucoup d'industriels prennent aujourd'hui la main sur les catalogues de formation. On a des industriels du textile qui se regroupent pour créer leur propre centre de formation pour répondre à leurs besoins. On a des industriels qui travaillent avec des lycées pour définir leur propre, avec l'administration, mais aussi des lycées pour définir leur propre référentiel de compétences, développer leur propre formation. C'est par exemple le cas des cuisines Schmitt à Célestat, en Alsace. Et on a aussi tout un défi sur rendre l'entreprise plus attractive pour les jeunes générations et les moins jeunes, parce qu'aujourd'hui, on est dans un secteur qui souffre encore d'un déficit d'image avec des représentations plutôt négatives. On a des usines qui sont plutôt situées dans des territoires qui eux-mêmes souffrent parfois d'un déficit d'attractivité. Et donc, il y a tout un enjeu pour l'usine et l'entreprise de se rendre plus vivante, plus attractive et de montrer que venir travailler dans ces secteurs, ce n'est pas juste faire un travail normal, c'est à la fois participer à un projet au service de la société, c'est à la fois le projet de l'entreprise, et il y a encore du chemin à parcourir là-dedans. Et la dernière chose qui est très importante, c'est d'arriver à décentraliser les politiques industrielles. On a besoin d'une stratégie nationale sur pourquoi on veut réindustrialiser, comment, et une grande feuille de route, mais on a besoin que les territoires jouent pleinement leur rôle. Or, aujourd'hui, les régions et les autres acteurs territoriaux ont été assez faiblement consultés, à la fois dans le plan de relance, mais aussi dans le plan d'investissement qui devrait être annoncé sous peu, alors que ce sont eux qui ont à la fois la meilleure connaissance des besoins qu'ils ont, la meilleure connaissance des entreprises et qui peuvent travailler en lien avec les entreprises de leur territoire pour définir leur feuille de route de développement. Et on fait assez peu confiance finalement aujourd'hui, je trouve, entre l'État et les régions, on fait assez peu confiance à ces territoires pour définir leur feuille de route. On a besoin de projets territoriaux, il faut faire attention aux rivalités entre régions. Par exemple, on n'a pas besoin de 13 plans hydrogène dans les régions, sauf si on arrive à les séquencer en fonction des différents moyens de mobilité. Il faut faire attention aussi aux batailles avec à coup de grandes sommes d'argent public pour attirer des entreprises qui ne profitent pas forcément au territoire. Il faut également créer, à mon avis, de nouveaux outils, donner les compétences peut-être supplémentaires à ces acteurs locaux pour qu'ils aient les moyens de construire leur feuille de route locale ou régionale de réindustrialisation. C'est à la fois des outils locaux de formation, c'est aussi des outils de développement du foncier industriel, travailler sur des conversions de friches industrielles, préparer des sites clés en main, parce qu'un des grands sujets dans la relocalisation, la réindustrialisation, c'est qu'on va avoir besoin à nouveau de bâti industriel, et il faut que les conditions d'accès pour les industriels soient simplifiées, et en même temps qu'on tienne le défi de ne pas artificialiser de nouveaux sols. Et donc là, l'un des moyens est la conversion des friches industrielles et la réhabilitation. Il faut aussi développer de manière plus forte des outils d'accompagnement des porteurs de projets industriels, à la fois avec des capacités d'ingénierie locale, des outils de financement, des accompagnements sur l'aspect réglementaire, qui aujourd'hui, même s'il y a des choses qui existent, ne sont pas harmonisées à l'échelle de la France, et avec des régions avec plus de compétences que d'autres, des capacités d'ingénierie très différentes, ce qui fait que, eh bien, selon que vous êtes un porteur de projet dans une région ou dans une autre, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes aides et donc les mêmes conditions de réussite. La deuxième chose que je voudrais dire sur l'aspect des régions, c'est qu'il est primordial que l'argent public irrigue l'ensemble des territoires, qui ne restent pas concentrés dans les métropoles. Aujourd'hui, on voit que beaucoup de projets financés, finalement, sont plutôt dans les métropoles. Or, l'enjeu, c'est un développement territorial équilibré, et notamment que les territoires qui ont été les plus touchés par la désindustrialisation ou qui ont perdu en activité en raison du départ de certaines activités administratives, hein, on pense la perte d'une préfecture, le départ de l'armée, etc., qui contribuent aussi à sinistrer ces territoires, il faut qu'on ait des leviers de rebond, et un des leviers de rebond est de développer des activités industrielles. Donc la dernière réflexion à avoir là-dessus, c'est se doter des infrastructures en conséquence, à la fois des infrastructures numériques, quand on parle de plus en plus d'industrie digital, d'usines automatisées, etc., eh bien, il y a des flux de données et donc il y a besoin d'un réseau beaucoup plus, un débit beaucoup plus efficace que ce qu'on a dans certaines régions de France. On a besoin d'infrastructures routières, on a besoin de modes de transport multimodaux afin qu'on n'ait pas de phénomène de désenclavement. En France, on sait qu'il est très facile de faire Paris vers le nord ou Paris vers le sud. Il est beaucoup plus compliqué de se déplacer sur les axes nord-ouest. Et il y a tout un travail à faire là-dessus si on veut réussir ce pari de la désindustrialisation. Je vais m'arrêter là parce que, un, je dois vous quitter, et deux, je crois que j'ai atteint les 20 minutes qui m'étaient accordées.